Madame la Présidente de cette table, ces colonnes, c'est avec grand honneur que j'arrive à Aix-en-Provence après avoir 14 heures dans un avion. J'ai pensé au moment où j'ai pris l'avion, je vais payer un prix très cher pour participer de ces colloques. Mais après avoir vu un tel beau auditoire, avec des étudiants tellement intéressés, j'ai dit, ça me reste encore une dette. Je commence cette exposition en disant à mon cher ami, le prof Laurent, que c'est vraiment un grand honneur de revenir à Aix-en-Provence, où je suis venu quelques fois, spécialement dans la faculté de droit, pour donner des cours. Et la dernière fois, il a déjà longtemps. Donc, de revoir Aix, c'est toujours un plaisir. Je profite pour dire un bonjour à mes chers collègues qui sont présents aussi. Le cas que je dois analyser, on peut dire que ce n'est pas difficile. Il faut comprendre qu'au Portugal, une femme, à l'âge de 50 ans, dans l'année 1995, elle avait un problème dans une glande, dans la glande gauche, près de la vagina. Vagina. Et elle est allée à l'hôpital, des hôpitaux au Portugal ne me semble pas être très bien pour faire ça, je ne recommande pour personne. Ils ont opéré et ont enlevé la glande droite au lieu de la glande gauche. Enlevé, ils ont retiré la glande droite au lieu de la glande gauche. Ça a provoqué dans cette femme des douleurs, elle a souffert des drames psychologiques, elle a souffert des douleurs physiques et elle n'a pas pu, après ça, avoir des relations sexuelles. Donc elle a engagé une poursuite devant le tribunal administratif au Portugal. Ce tribunal administratif, après avoir connu le problème, et il a déclaré qu'elle avait le droit d'indemnisation. Ils ont fixé la valeur. Et après, elle n'était pas satisfaite avec cette indemnisation. Elle a fait un appel pour le Suprême Tribunal administratif au Portugal, où ils ont fait une réduction de la première valeur qu'ils avaient faite en faveur de cette femme. Mais parmi la discussion, ils ont dit qu'il n'avait pas besoin de mesurer ce dommage qu'elle a souffert d'une telle façon qu'avait besoin de fixer une amende plus précise, parce qu'elle avait déjà 50 ans, elle avait déjà deux enfants, donc la relation sexuelle n'était pas très importante, et comme la fonction primitive était la reproduction, elle avait déjà deux enfants. En tout cas, ils ont fixé une amende d'argent, je ne me souviens pas exactement combien, et je ne me souviens pas exactement le nom de la femme. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Comme disait Shakespeare, ce n'est pas important le nom de la rose. L'important, c'est qu'elle a son parfum. Et cette femme, elle a porté devant le tribunal européen des droits des hommes la question. Comme nous le savons, le tribunal des droits des hommes, pour lui, ce n'est pas possible de corriger ou de donner une autre décision qui sera une superposition sur cette question qu'il avait déjà discutée devant la cour portugaise. Mais par une question d'honneur, par une question morale, elle a engagé cette réclamation devant la cour, devant le tribunal des droits des hommes, en cherchant cette affirmation qu'elle avait ses droits. À la fin, après la discussion, parmi les 7 juges, 5 juges ont décidé en faveur de cette femme et 2 juges au contraire. Donc, nous avons déjà une affirmation. 5 personnes, 5 juges ont dit oui, elle a raison, et 2 juges ont dit elle n'a pas raison. Et pourquoi ils ont dit ça? Le plus intéressant, c'est la première affirmation de la démocratie. La démocratie, nous sommes toujours en train de chercher des numéros, nous sommes en train de chercher quelle est la majorité à favor de qui. Mais une autre question, que c'est la philosophie, et spécialement la philosophie du droit, ça veut dire, ça affirme que la vérité n'est pas forcément une amie, ou elle n'a pas forcément, elle n'a pas l'amitié avec la majorité. On peut être absolument convaincu et voter d'une façon telle que personne ne va pas nous suivre dans notre décision. Mais par contre, la vérité pouvait rester à notre côté. Dans ce cas, les juges qui ont décidé, ils ont pris en faveur de la dame, ils ont pris comme argument à son faveur, spécialement la langage qu'ils ont dit que c'était un langage un peu chargé de préjudice contre les femmes, et parce que cette langage était un peu le monde masculin qui décidait contre une femme, par le langage, ils ont dit que cette décision, cet arrêt au Portugal n'était pas bien fait. Donc, à la fin, ils ont condamné, donné une indemnisation autour de 2 500 € à faveur de cette dame, en disant qu'il avait eu une discrimination contre elle parce qu'elle était une femme. Par contre, ils ont pris aussi des cas, des autres affaires qui avaient été jugées au Portugal, que deux hommes ont subi des chirurgies, des problèmes différents parmi eux. Ils ont subi des chirurgies et à la fin de ces chirurgies, la décision qui a été donnée, l'arrêt qui a été donné au Portugal, a dit que, car ils sont des hommes qui ont besoin de la relation sexuelle et qu'ils sont encore jeunes, on va fixer l'indemnisation de 200 000 €. Quelque chose plusieurs fois par rapport à la femme. Par contre, on a un problème. Les 2 juges qui ont dit non, cette décision, cet arrêt n'est pas correct, je vais dire, je suis moralement à faveur de la dame qui a fait ça. Qui a engagé cette poursuite devant la cour devant le tribunal des droits des hommes, moralement, mais pas juridiquement, et je vous explique. Au moment qu'on a une méthodologie au droit, il faut la respecter, parce que la méthodologie du droit, c'est basé sur la propre démocratie, d'une façon telle que si on va la suivre toujours, on aura ce qu'on appelle le principe de la sécurité juridique. Nous pouvons savoir que toutes les fois qu'on va demander une réponse juridique devant un tribunal, ce tribunal va prendre une méthodologie déterminée et en suivant cette méthodologie va nous donner la réponse correcte. Si le tribunal, si le monde du droit, si les juristes vont abandonner la méthodologie, chacun va décider selon sa propre conscience. Et nous savons que la conscience n'est pas forcément la meilleure décision. Il faut avoir une méthodologie que les 5 juges qui ont décidé à faveur de cette femme n'ont pas respectée. Pourquoi? Parce que le tribunal au Portugal qui ont donné la décision à faveur de 2 hommes, était de ces 2 hommes qui étaient comparés avec cette femme, c'est un tribunal, c'est la cour, c'est le tribunal suprême du Portugal. La décision qui a été donnée à faveur de la femme, c'était une décision prise ou donnée par le tribunal administratif, suprême administratif du Portugal, une autre juridiction. Donc, pour dire qu'il pouvait avoir une discrimination, il faut un raciocinio juridique d'une façon telle qu'on doit comparer parmi les cas semblables d'une même juridiction et pas comparer des choses différentes. Ils ont comparé des choses différentes et pire que ça, ils ont pris deux cas contre un cas qui a été jugé de cette femme. Pour faire la statistique de la discrimination, ce n'est pas suffisant voir trois cas parmi des milliards de cas qui sont discutés devant la Cour. Donc, des cas dans une juridiction différente par rapport à cette décision qu'on peut accuser d'être discriminatoire, on ne peut pas dire que ça c'est la meilleure méthodologie parce que c'est peu de cas pour qu'on puisse faire une vraie comparaison. Au-delà de ça, ils n'ont pas obéi ce que la doctrine appelle une procédure triphasique ou de trois étapes. La première étape, identifier les groupes qui ont-ils discriminé et les groupes qui ont-ils traité normalement. La deuxième étape, vérifier la inégalité de traitement d'un groupe par rapport à l'autre. La troisième étape, c'est examiner s'il aurait une justificative ou une justification pour cette différence de traitement. Donc, ces étapes, elles ne sont pas obéies par le Tribunal européen des droits des hommes. La majorité a pris cette décision. Mais les deux juges qui ont dit la méthodologie juridique n'était pas prise en valeur, je vais le suivre parce qu'à mon avis, ils recommandent le principe de la sécurité juridique qui en même temps apporte dans son cœur la méthodologie. Les deux juges qui ont décidé contrairement à la majorité, ils ont dit, si vous avez une idée, que soit une idée honnête, si vous avez un drapeau que vous voulez le porter, il faut attendre un bon cas, un vrai cas, un juste cas pour décider selon vos convictions. Mais il ne faut pas décider dans les cas faibles, dans les cas où il existe des doutes. Sinon, il va paraître que vous êtes en train de faire de la politique, mais pas vraiment de donner une décision juridique. Dans les rapides considérations, c'est le cas et c'est l'opinion que j'ai. Je suis à vos dispositions. Merci.
Merci beaucoup, professeur. On voit bien les questions qui penchent plus vers l'homme que vers la femme. Dans le cas bien précisé, bien analysé. Nous allons donc de suite passer à vos questions. N'hésitez pas à donner votre commentaire, remarque. C'est un cas peut-être un peu spécial au premier vue, mais en fait, un problème médical qui arrive assez souvent, enfin on enlève le genou gauche au lieu de le genou droit, enfin quelque chose comme ça. Ici c'est peut-être une question malpractice, comme on dit.
Excuse-moi.
Une erreur médicale. Par la suite, les drames psychologiques. On a vraiment le cas d'une femme ici qui doit être jugée publiquement.
C'est vrai. Je pense qu'il a touché la conscience des juges la question d'être une femme. C'est un drapeau nécessaire et moderne, mais comme a dit les deux juges qui ont voté différemment, il faut attendre les bons cas. Celui, ce n'est pas le bon cas pour décider à faveur d'une femme. Parce que c'est un cas très compliqué, qu'on ne peut pas faire des comparaisons. Donc, il faut attendre les bons cas, sinon, ça va paraître seulement une discussion politique. Ce n'est pas le cas.
Est-ce que c'est aussi une question de discrimination d'âge? Parce qu'on le dit, bon, elle a 50 ans au-delà, on s'en fout, alors elle a déjà vécu sa vie. Mais bon, quand même, hein, pour les femmes qui ont plus de 50 ans, ça dit quelque chose.
Ils ont mis dans la décision ça, c'est une violation qui a considéré, je suis tout à fait d'accord, la violation d'article 8 et d'article 14. L'article 8, c'est la protection de la vie privée, l'intégrité physique et psychologique. Et l'article 14, c'est la antidiscrimination. Donc je pense qu'il y a vraiment un préjudice. En utilisant cet argument qu'elle avait déjà deux enfants, qu'elle avait 50 ans. Moralement, je suis d'accord. Il ne pouvait pas mettre ça. C'est clairement une violation d'article 14. Mais la façon qu'ils ont pris la fondamentation de la décision, comme quelqu'un qui appartient au monde juridique, comme quelqu'un qui respecte la méthodologie scientifique juridique, je ne peux pas être à favor. Ce n'est pas être à favor de la forme pour la forme. C'est savoir que les droits... La forme, comme disait Victor Hugo, c'est le fond qui est arrivé à la superficie. Donc la forme, il faut qu'on respecte la forme parce qu'elle apporte la vérité du fond.
Peut-être juste rajouter un élément de compréhension. Elle n'est pas allée devant la cour, cette femme, Madame Carvalho, elle n'est pas allée devant la cour en disant uniquement « j'ai été l'objet » d'une justice stéréotypée. Ça, c'est une partie de l'argumentation. Mais la vraie partie, la partie apparente, c'est de dire la justice portugaise, elle diminue de façon extraordinaire l'indemnisation du préjudice. Parce que j'ai 50 ans, parce que j'ai deux enfants. C'est ça, c'est la diminution du préjudice fondée sur une image stéréotypée de la femme. Et ce que la Cour a voulu faire, je suis tout à fait d'accord avec la présentation qui vous a été faite, la Cour a voulu payer la justice portugaise. Parce que c'est une façon d'être qui est très répandue par la justice portugaise. Et la Cour cite plusieurs rapports des Nations Unies sur cette question, sur le machisme de la justice portugaise. Et elle cite aussi, la Cour cite aussi, un observatoire portugais de la justice, un observatoire national de la justice portugaise. Et ce qu'il a voulu vous dire, et ça se comprend parfaitement, elle a fait tribunal d'opinion,
ouais.
Plus que tribunal juridique. Et là-dessus,
je me souviens, dans mes premières années, l'étude du droit, une affirmation qui appartient à Virgilio. Les droits, c'est un rapport, une relation de homme à homme, pour les hommes, qui c'est le droit, c'est un rapport, c'est une relation des hommes pour les hommes, qui servata servat societate, qui conserve la société, et corrompu. Donc il faut respecter les droits, sinon on va juger selon nos opinions. C'est ça.
Est-ce que vous entendez par homme les hommes en général, les humains ou les hommes mâles?
Non, j'ai reproduit. J'ai reproduit.
On parle des mâles.
Non. J'ai reproduit l'affirmation qui a été faite il y a des mille ans.
Oui.
Et je n'ai pas voulu faire la traduction au moderne langage pour respecter ses origines. Mais la compréhension, c'est pour tous.
Il serait peut-être temps que la déclaration des droits de l'homme, on l'appelle la déclaration des droits humains, on éviterait toutes ces ambiguïtés. Parce que je pense que vous nous avez décrit, c'est un sommet de stéréotypes.
Ah oui, tout à fait.
C'est vrai.
Mais alors, quel recours reste aux femmes portugaise pour se défendre, pour être protégée de ce fascisme. Aucun.
C'est mondial la question. C'est mondial.
On va leur conseiller.
Au Brésil.
On va leur conseiller d'aller dans la rue. Moi, je leur conseille d'aller dans la rue.
Bon, on va leur dire.
Tout à fait d'accord.
Et je précise que j'ai pas 75 ans. Ça ne s'arrête pas.